carnet de festivalier
sur Radio Scarpe Sensée
au Arras Film Festival. Arras Film Festival 26e édition, jour 2, nous sommes le 8 novembre, Grand Place d'Arras, il est 20h, c'est pas l'heure des informations mais l'heure de rencontrer un réalisateur, poète, fantaisiste, Sébastien Bedbédé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé 2 automnes, 3 hivers et le voyage en Groenland, tous deux présentés ici dans ces murs. Vous êtes ici présent pour présenter l'incroyable Femme des Neiges, où Blanche Gardin est une exploratrice polaire qui revient sur ses terres de jeunesse, le Jura, non sans humour et nostalgie. Son personnage s'appelle Colin Morel, cette Femme des Neiges qui vient finalement chercher la chaleur humaine après licenciement, séparation. C'est ici l'importance de retrouver le contact avec la nature.
Oui, et aussi le contact avec ses frères, parce que le retour au Jura est justifié par le fait que Colin Morel est à un moment de sa vie, sans trop en dire, très particulier, voilà, où elle se pose la question de sa finitude, de son devenir. Et elle éprouve la nécessité d'aller retrouver ses frères pour lui dire voilà son secret. Pour moi, c'est un film effectivement où la nature a une place prépondérante, celle du Jura et celle du Groenland après, mais aussi un des sujets très forts du film, c'est la famille et en particulier la fratrie.
Premier plan, le spectateur est au Groenland, c'est un pays qui ne vous quitte plus.
Un endroit qui m'a complètement bouleversé après la première expérience qui a été celle du voyage au Groenland 8 ans auparavant. Et je me souviens très bien de cette réflexion que j'avais dans l'hélicoptère qu'on a quitté. Il faut savoir qu'il faut 5 avions et un hélicoptère pour aller jusqu'à cet endroit où on avait tourné le voyage au Groenland en particulier. Je m'étais dit, il faut absolument que je revienne dans ce territoire inouï. Et comme j'ai du mal à séparer la vie du cinéma, je m'étais dit j'y reviendrai avec un film de cinéma. Et j'ai mis 8 ans alors j'ai fait d'autres films en attendant, mais j'ai mis 8 ans à trouver le sujet qui se prêtait, qui justifiait un tel voyage.
Donc le film part d'une réflexion de filmer le Groenland à nouveau.
C'est un peu plus complexe que ça. Il y avait ça, comme, évidemment, comme moteur très fort, de retrouver aussi Oli Martical et les non-comédiens qui sont devenus des personnages presque récurrents de mes films maintenant. Et il y avait aussi une question qui habite le film de manière très forte, qui est la question de la mort. Quand je réfléchissais en écrivant sur cette question-là, beaucoup de choses rentraient en conflit avec l'ambition de mon film et l'ambition que j'avais dans le traitement de cette question de la fin de vie. Et je suis passé par plein d'étapes avec des versions de scénario. Le personnage de Colin Morel revenait dans le Jura pour partir mourir en Suisse. Et finalement, j'étais toujours insatisfait de cette question-là. Et je me suis mis à repenser à des discussions qu'on avait eues avec Olivier Martical, deux personnages du film Inuit, sur cette question de la mort. Et je me suis rappelé de ce rituel dont il m'avait parlé, qui était que quand une personne est atteinte par la maladie dans ses communautés, pour pas devenir un poids pour cette communauté, elle décide de partir sur la banquise, de jusqu'à ce que ses forces s'amenuisent pour ne faire qu'un avec l'immensité du vide et la nature.
Je suis venue pour mettre noir sur blanc l'avancée de mes recherches au calme. Et pas la même occasion d'essayer de raconter un peu de ma vie.
Entre le Groenland et le Jura, c'est un film qui met justement un pont hein, dans ces espaces parce que finalement, Colin cherche un lien fraternel mais aussi un lien paysager où elle aime retrouver ces montagnes enneigées.
Le parallèle, évidemment, je l'avais pensé, je l'avais réfléchi. Enfin, c'était pas innocent enfin, de partir du Jura de partir des montagnes jurassiennes et pour aller au Groenland. Moi, j'avais... Au tout début, j'avais pensé d'un film qui serait intégralement dans la neige. Mais en fait, c'était bien naïf de ma part de ne pas prendre en considération aussi, en France, la question du réchauffement climatique. Et je me suis retrouvé à ce qui est devenu une force scénaristique, de filmer une station de ski complètement en fin de vie. Et pour
Métabief, je crois.
À Métabier, ouais. Métabier, ouais, tout à fait. Et le fait de devoir être face à ce paysage assez désolé, finalement, était une force pour le récit, parce que au-delà de la métaphore, le personnage de Blanche, Colline Morel, est à un moment de sa vie où elle est, voilà, où elle est en fin de vie, on pourrait dire très très vite. La station de ski est aussi en fin de vie. Et je trouvais ça très beau, comment on pouvait évoquer aussi, de manière presque politique, la fin d'une forme de capitalisme au Jura, et pour pouvoir enchaîner dans le Groenland avec ce sentiment que j'avais, une forme de responsabilité à filmer un monde qui disparaissait, quoi.
Filmer la neige aussi, il y a un plaisir de filmer la neige aujourd'hui.
Je m'étais rendu compte de ça lors du premier voyage, c'est comme une page blanche en fait, c'est-à-dire que toutes les caractérisations des personnages, tous leurs états d'âme, tous les sentiments sont exacerbés en fait, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup au rapport des individus au paysage, et là face à ce blanc-là, ils sont contraints d'exister pleinement, quoi. Et par rapport au sujet de mon film, c'était vraiment, évidemment, je fais des comparaisons assez idiotes, mais le sujet de mon film n'aurait pas pu trouver pour décor un appartement parisien, évidemment, et c'était voilà, une manière métaphysique de traiter des personnages. Ouais.
C'est un défi technique, hein, de filmer au Groenland, j'imagine, avec, vous le racontiez, avec des tempêtes aussi, avec... aussi le nombre d'heures aussi accumulées pour aller se rendre là-bas, c'est un vrai défi, mais mais sur place, on est encore comme un enfant, quoi, qui veut filmer un territoire.
Oui, il y a de ça. Je sais pas si c'est comme un enfant, parce que c'est pas des, c'est pour ça que j'ai mis 8 ans à écrire et à essayer de retourner là-bas. C'est un tel enjeu, en fait, ça impose tellement de trouver le... C'est le vide aussi, c'est quelque chose de très... Je me souviens d'un des deux comédiens du Voyage au Groenland qui, au bout d'un moment, a eu des crises de panique devant ce paysage, devant l'horizon infini, devant le jour perpétuel. Il y a quelque chose qui nous met dans des conditions où on doit aller chercher, au fond de nous-mêmes, quelque chose de très fort. Et donc les comédiens, Blanche, Philippe et Bastien, ont dû aller chercher au fond d'eux-mêmes pour pouvoir interpréter ces personnages-là. C'est à la fois merveilleux, mais aussi extrêmement hostile et extrêmement déstabilisant dans la façon dont ça nous renvoie à nos angoisses les plus intimes.
8 ans après, on redécouvre à nouveau le Groenland, où on connaît déjà un peu le territoire.
Je voulais tourner à Couche-d'Orsoir, que là on avait tourné le premier film, et pour des raisons techniques, on a dû tourner un peu moins au nord, à Upernavik, dont je ne connaissais pas. On y était passé parce que c'est une des étapes du voyage. Il faut 5 avions et un hélicoptère pour aller jusqu'à Couche-d'Orsoir. Donc je ne connaissais pas, et ça a été une découverte. C'est un village plus grand, avec plus d'habitants. Et donc il a fallu... très très vite repérer de nouveaux lieux, découvrir de nouveaux personnages qui allaient pouvoir jouer dans le film. Donc c'était assez nouveau malgré tout. Alors il y avait l'expérience du premier tournage, de cette expérience du froid et de ce paysage et du jour perpétuel, mais c'était assez nouveau, et c'est, je crois, que ce qui nous a aussi excités tous, et ce qui nous a, c'était très difficile aussi parce qu'il fallait faire des voyages en bateau devait durer très peu de temps, mais manque de bol, quand on est arrivé, il y a eu une vague de froid qui a fait que la mer, la glace s'est reformée sur la mer, et les endroits que j'avais repérés, il a fallu c'était au lieu d'une heure, c'était 4 heures de bateau en brisant la glace, en slalomant entre les icebergs. Donc il y avait un rapport où on a vraiment été confronté à l'hostilité de ce territoire aussi, quoi.
Et vous en servez, il y a cette scène notamment où ce plan où il y a les deux frères et la glace qui se brise devant eux.
C'est un film purement de fiction, beaucoup plus que Le Voyage au Groenland. Le Voyage au Groenland assumait son côté très documentaire, mais malgré tout, évidemment, il y a des moments, là encore une fois, proches du documentaire. Mais je crois que après cette expérience et cette connaissance modeste, en tout cas cette appréhension plus, plus en confiance que j'avais avec ce territoire. Je pense que je pouvais me permettre un film de fiction, quoi.
Qu'est-ce que tu fais là, Colline ?
T'as grossi, non ? Je peux prendre la chambre des parents ?
J'ai appelé ses collègues de l'Institut Polaire, là. Elle avait été virée.
Séquestration, n'importe quoi.
On va vous demander de nous suivre, madame.
Tu te souviens de moi ? Ton petit frère ? Il paraît que tu sèmes la terreur au village depuis ton retour.
Mon compagnon pense que je suis subitement devenue bipolaire. Ce serait marrant pour un spécialiste d'épaule.
Vous filmez un personnage seul ici qui va retrouver ses frères, donc ici joué par Philippe Catherine et Bastien Bouillon, et son amour de jeunesse. Vous filmez avec de l'émotion et aussi de la drôlerie. Moi, je repense à cette scène justement à l'école primaire, l'école maternelle, où elle explique son métier avec des mots cash, avec les véritables mots, avec ce qui se passe vraiment pour la nature, mais devant un public très jeune qui est choqué par les images, et donc on la sent un peu déconnectée de tout ça, mais pourtant elle veut bien faire, elle veut raconter ce qui se passe vraiment à l'autre bout de la terre et et ce dérèglement climatique.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une scène de pure comédie, mais qui dit beaucoup, en fait. Et c'était très important que dans le début du film, il y ait des informations qui passent sur l'état du climat, la question du réchauffement climatique, de cette question, évidemment, qui est, de manière certaine, la question des décennies à venir. Et en même temps, c'est une scène de pure comédie. C'est très important de dire que le film est une comédie, je le revendique comme tel. C'est une comédie contrariée, avec une première partie qui est explicitement une comédie contaminée par le drame, et une deuxième partie qui l'orne plutôt du côté du drame et qui est contaminée par la comédie. C'est comme ça que vraiment j'ai écrit le film et que je l'ai pensé jusqu'à la fin du montage. Dans cette scène de classe, avec la scène des flics, qui est une deuxième scène de pure comédie, elle faisait partie des scènes pour lesquelles j'avais le plus d'enjeux de mise en scène, en fait. Parce que c'est des scènes de comédie, c'est très difficile à écrire une scène de comédie, ça demande beaucoup d'exigences d'écriture, de rythme, de découpage. Et en même temps, c'est des scènes qui étaient d'autant plus difficiles parce que, pour moi, dans un miroir inversé, du rire, de l'autre côté de ce miroir, il y a tout le drame et toute la gravité du personnage de Colline Morel et tout son désespoir. Et voilà, donc c'est des scènes très très importantes et qui étaient des moments absolument indispensables pour moi pour pouvoir faire un pacte avec le spectateur et pour pouvoir le mener jusqu'à la suite du film.
C'est une fiction, mais on peut dire qu'il y a des moments de presque à la façon presque filmée comme d'un documentaire. Je pense à ces zooms notamment. Ces zooms seraient brusques, comme ça sur un personnage qui va faire certainement une révélation. Ce choix de ces zooms.
Le zoom est un moyen cinématographique vachement désaimé. Enfin, il y a un désamour total pour ce mouvement. Moi, ça m'intéresse. J'ai jamais osé. J'avais fait quelques tentatives dans un ou deux films, mais là c'était vraiment une réflexion de fond. C'est-à-dire que j'ai vraiment, quand j'écrivais le film, je me disais, c'est pas du tout un film de gauche à droite, c'est pas du tout un film travelling, c'est un film zoom. C'est un film zoom parce que c'est un film qui va vers l'âme des personnages et qui va chercher quelque chose que seule la caméra peut enregistrer. Et vous parlez des crash zoom, qui sont ces moments très violents ou qui sont plutôt dédiés aux moments de comédie. Et c'est, pour moi, c'était une manière, encore une fois, d'aller chercher quelque chose chez le personnage qui, comme si la caméra pouvait être active et pouvait aller récupérer quelque chose. Et très souvent, ces moments-là, j'en parlais avec mon chef-op et je disais, je lui lançais le déclic quand il devait lancer le crash zoom. C'était vraiment une histoire d'essayer de capter quelque chose et parfois d'échouer, et c'était pas grave, en fait. Et après, il y a un autre zoom dans une autre version de zoom dans le film qui est ce zoom extrêmement lent qui occupe une grande partie de la mise en scène de mon film et qui est quelque chose, voilà, en termes de mise en scène, qui est très passionnant parce que quand on lance un zoom aussi lent, c'est-à-dire qu'il faut, il faut travailler avec le comédien pour lui dire, il va avoir du silence et à un moment il va avoir un dialogue ou un geste ou une expression de visage qui va devoir arriver à tel moment précisément. Et je trouve ça assez passionnant. Et puis une des références était aussi le western humaniste, surtout des années 70, et qui a utilisé à extrêmement bon escient cet outil cinématographique.
C'est son mec, tu crois ?
Oh non.
Il y a un lien aussi avec le décor, avec le Groenland. Est-ce que c'est le Groenland qui impose aussi un rythme et qui impose ce long zoom ?
Vous avez complètement raison. C'est le cas pour le zoom, mais c'est le cas aussi. Enfin, je vais raconter très brièvement une expérience que j'ai vécue par rapport à l'expérience du film. C'est que quand on déroche un film, moi je suis rentré du Groenland après le Jura et le Groenland, j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose en fait, mais sans la certitude tant qu'on n'a pas déroché le film. Et on passe énormément de temps à dérocher un film, on passe 3 semaines dans l'ordre du tournage. Et quand donc on a commencé par le Jura et quand je suis arrivé aux premières scènes du Groenland, je me suis dit, mais c'est quoi ce rythme en fait ? C'est quoi ce rythme de parole qu'ont les Inuits, cette façon de laisser une place incroyable au silence, une douceur aussi. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est qu'on l'a vécu au quotidien pendant 5 semaines de tournage, mais je l'avais oublié et c'était complètement en contradiction avec ce que j'avais réussi en termes de montage ce que j'avais cherché dans le montage dans le Jura. Et en fait, ce qui est très très fort, c'est qu'ils ont imposé leur rythme. Ils nous ont fait ralentir. Et c'est une leçon de vie et une leçon de cinéma.
Parce que j'avais vu un film d'animation, pareil, sur cette culture. Et c'est vrai que c'est une leçon. Eux ne vivent pas, en fait, ils survivent en fait, au quotidien.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans un milieu hostile total. C'est-à-dire que la question de la mort est quotidienne. C'est-à-dire qu'ils doivent aller chasser des ours, des phoques pour survivre. Donc ils tuent. Ils tuent pour nourrir la communauté. Et l'été, quand ils chassent le narval, ce poisson qui se chasse au harpon, ils prennent le risque à chaque fois de tomber dans l'eau. Ils savent pas nager, l'eau est glacée, donc ils risquent leur vie au quotidien. Donc il y a quelque chose d'un rapport à la mort qui est complètement absolument quotidien. Ouais.
C'est un film sur les choix de vie.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai beaucoup de mal à parler, et même si c'est indirectement un sujet du film, de maladie mentale pour le personnage, parce que ça serait un raccourci trop hâtif. Je crois que le personnage de Colin Morel, elle est d'une honnêteté et d'une forme de résistance au monde qui est assez exemplaire. Moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est un personnage que j'admire. C'est bizarre de dire ça, mais j'admire énormément aussi ce qu'a fait Blanche du personnage. Mais vu la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, je trouve qu'avoir ces comportements de résistance, de fuite, je ne sais plus quel mot vous avez employé, mais c'est un signe de bonne santé au contraire. Quoi.
Comment on se sent quelques jours avant la sortie d'un film ?
Très angoissé, pour vous dire la vérité. Je suis très heureux d'être là parce que Eric et Nadia avaient sélectionné le film à Berlin il y a presque 9 mois et ils tenaient à ce qu'il soit là et on a fait en sorte que ça soit juste avant la sortie du film et ça, je suis vraiment très heureux, c'est un moment de bonheur d'être là, mais ça me permet de moins penser à la sortie. Mais oui, je suis angoissé parce que c'est un film qui compte énormément pour moi, qui compte énormément dans ma carrière et que j'ai envie que les gens soient au rendez-vous, donc on espère que ça sera le cas.
Voilà, vous mettez juste vos petites polaires et vous voyagez au Groenland grâce à vous et grâce à ce très beau film, L'incroyable Femme des Neiges. Merci beaucoup, ça sort mercredi.
Merci à vous, merci beaucoup.
Sur Radio Scarpe Sensée.
Carnet de festivalier au Arras Film Festival.